À voix nue. Cette semaine, Jules Crétois rencontre Catherine Kokeri-Vidrovitch. Ce soir, un quotidien clandestin sous l'occupation.
Catherine Kokeri-Vidrovitch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'Afrique et votre nom est connu des historiens, des étudiants à Paris, à Dakar, à Rabat et jusqu'aux États-Unis. Et si votre nom est connu, c'est que votre travail est pionnier. Vous avez, avec bien d'autres évidemment, imposé l'histoire de l'Afrique. Imposé, c'est pas un très joli mot, mais ça se justifie sans doute parce que quand vous avez commencé votre carrière, il y a de ça environ 60 ans, on considérait ici, en France, en Europe, que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Aujourd'hui, ces propos, on peut encore les entendre, mais ils ne peuvent plus être émis sans provoquer des réactions. L'Afrique a une longue histoire, très longue, et vous avez dédié votre vie à la découvrir, à l'étudier, et puis à la faire connaître contre tous les préjugés. Aujourd'hui, votre travail qui porte aussi forcément sur la traite, la colonisation, rencontre sans doute un écho nouveau auprès d'un public jeune notamment, qui débat beaucoup des questions liées au racisme et au poids de l'histoire coloniale. Alors nous sommes chez vous, merci de nous accueillir, en banlieue parisienne, dans un petit pavillon de Malakoff, où vous vivez depuis quelques années, mais assez loin de l'image qu'on peut se faire de l'historien sédentaire tourné vers le récit. Pendant plusieurs décennies, vous avez voyagé inlassablement, vous avez collecté des sources, glané des archives et vous avez aussi été témoin d'événements politiques assez intenses. Vous avez entre autres traversé mai 68 et les indépendances africaines. Nous allons tâcher de comprendre avec vous ce qui vous a amené à offrir au monde une œuvre érudite mais accessible qui se confond peut-être un petit peu avec une forme d'engagement. Et pour répondre à ces questions, pourquoi devenir historienne et pourquoi l'Afrique, nous allons commencer par revenir avec vous sur votre enfance. Particulière, elle s'est déroulée en partie dans la clandestinité, sous l'occupation.
Oui, et je pense, en y réfléchissant, évidemment, je n'avais pas réalisé ça quand j'étais dans la clandestinité, j'avais entre 4 et 9 ans, donc je la vivais et je ne la réfléchissais pas. Mais en écrivant en particulier mon dernier livre, où j'essayais de reconstituer un petit peu pourquoi j'avais choisi de travailler sur l'histoire de l'Afrique, ça m'a fait revenir un certain nombre d'impressions. Alors d'abord, l'histoire, on peut dire, c'est un petit peu paradoxal pour ce genre de profession, que c'était une vocation. J'ai toujours voulu être historienne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça remonte très loin. Je raconte que quand j'étais en classe préparatoire, c'était à Beauvais, une petite ville, il m'est arrivé il y avait un manuel, le Petit Lavis, c'était le manuel d'histoire des écoles à l'époque, pendant très longtemps, qui me fascinait. Il y en avait un pour deux, parce que c'était la guerre, et par conséquent, on n'en avait pas. J'étais une école de filles, une chacune, c'était ma copine qui gardait le livre. Et un jour, je lui ai chipé à la fin de la classe, et je regardais frénétiquement les images, parce que je suppose que je ne savais pas encore lire, j'étais en préparatoire, quand la grande sœur est arrivée pour récupérer le livre, et ma mère ne s'y est pas trompée, j'ai eu droit à une scène, le vol était très vilain. Je n'avais pas vraiment volé le livre, mais enfin je l'avais emprunté sans demander trop d'autorisation. Et c'était un livre d'histoire. Et alors pourquoi j'ai toujours voulu faire de l'histoire, ça d'une vocation. J'étais d'une famille plutôt de scientifiques. Mon père était ingénieur des ponts. Il est mort de très jeune, à 37 ans, en 1942, pendant la guerre, suite d'une blessure de guerre. Mon grand-père maternel était professeur de mathématiques. Mmh. Et donc, comme j'étais bonne élève, j'étais sérieuse et travailleuse, ça ne faisait pas un pli, je serais une scientifique. J'ai laissé dire pendant toute mon enfance et ma jeunesse, y compris pour la dernière classe de lycée, qui était la Mathélem, à l'époque. Et puis, à la fin du lycée, j'ai dit, ben non, je ne veux pas faire de sciences, je veux faire de l'histoire.
Bon, alors, vous êtes né en 1935 et, mine de rien, votre jeunesse, elle rencontre la grande histoire. Alors, en l'espèce, une histoire terrible, mais notamment, un de vos premiers souvenirs marquants, je crois, c'est aussi un épisode important de l'histoire de France, c'est l'Exode.
Oui, et ça m'a, je pense que ces traumatismes de l'enfance, que je n'ai pas vécu comme des traumatismes parce que j'étais très protégée par ma mère, ma grand-mère, mon entourage immédiat, mais c'était des traumatismes évidemment. Et mon tout premier souvenir est effectivement un souvenir d'Exode. Ma mère nous transbahutait C'était probablement au moment de la déclaration du général de Gaulle, parce que ma mère s'est arrêtée en juin pour prendre de l'essence, et par le plus grand des hasards, elle a entendu le discours du général de Gaulle à la station-service. Longtemps après, je lui ai dit « Mais quel effet ça t'a fait ?» Et elle m'a dit « Mais tout était transformé, c'était extraordinaire, on avait gagné. » Et on était quand même en juin 39. Et alors ça s'explique par le fait qu'effectivement nous étions une famille juive, absolument non pratiquante depuis deux générations de chaque côté. Je n'aurais probablement pas su, ou extrêmement peu su, que j'étais juive s'il n'y avait pas eu la guerre. J'ai été juive à cause des nazis. C'est une enfance particulière dans la mesure où ma mère a joué un très grand rôle dans ma vie, puisque elle avait 32 ans quand mon père est mort en 42, il en avait 37, et elle a pris les choses en main. Et elle était une femme très vigoureuse. Elle s'est révélée d'une certaine façon à ce moment-là, parce que ça avait été elle avait été orpheline quand elle avait 11 ans, son père était mathématicien, elle n'avait pas un très bon souvenir de son enfance parce qu'il devait être un peu crispé pour l'éduquer. Un homme à l'époque, éduquer tout seul une petite fille, ça devait être un peu compliqué, mais enfin, elle l'aimait beaucoup. Et elle a donc eu des responsabilités assez tôt. Ceci dit, elle s'est mariée à 19 ans avec mon père. Mon père avait fait Polytechnique et l'école des Ponts et Chaussées. Il a tout de suite été nommé à Barcelonnette. Elle l'a suivi à 19 ans. Elle avait commencé juste une année de médecine. Elle a arrêté. Elle était une jeune femme au foyer, mère de deux jeunes enfants. Mmh. Elle ne s'était pas révélée d'une certaine façon.
Mais elle va se révéler.
Et en 42, elle a été absolument formidable. Même avant 42, j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, dans ses papiers, une lettre qu'elle avait réécrite en 39. Au début de la guerre, probablement, mon père était probablement mobilisé, et elle dit « Voilà, si je disparais, voilà ce que je demande pour mes filles. » Et c'était d'une modernité extraordinaire pour l'époque, en disant « Il faut qu'elle fasse des études. » C'est une lettre tout à fait remarquable pour une jeune femme de 29 ans à l'époque, qui n'avait pas vraiment vécu, en réalité, et qui a tout prévu. Et puis alors, elle avait eu la visite d'une... à Beauvais, où mon père à ce moment-là était ingénieur des ponts, il fréquentait, disons, la petite élite locale, et parmi eux, il y a une jeune femme qui est venue la voir, qui était allemande et qui avait épousé le professeur d'allemand du lycée, et qui lui a dit « Surtout ne vous déclarez pas ». C'était le moment où les Allemands avaient demandé à tous les Juifs de se déclarer en octobre 40. Et surtout, ne vous déclarez pas. Donc, mes parents l'ont écouté, ont commencé une vie de clandestinité, mais très naturelle. Je vivais tout à fait normalement, tout en sachant que il fallait rien dire, qu'on était clandestin, qu'on ne pouvait faire confiance à personne, mais en même temps, on vivait normalement. Donc j'ai vraiment connu très tôt la vie clandestine.
Il faut expliquer, votre famille va faire un choix, se faire passer pour chrétien.
Oui, alors un autre élément de mes parents qui a été très classique, c'était de nous faire baptiser, nous faire élever dans la religion chrétienne, catholique, de façon à nous protéger. J'ai un vague souvenir du baptême, je devais avoir 5 ans, je m'en souviens très vaguement. Et j'ai été effectivement une petite croyante catholique jusque... Ça s'est passé tout seul, ça a disparu tout seul quand j'avais 10-11 ans. Mes seules connaissances véritablement enfant de religion, c'est effectivement... La religion catholique, et non pas la religion juive que j'ai appris à connaître après, mais que je connais très peu. Donc c'était une atmosphère tout à fait particulière qui pour moi était, et je pense que ça c'est très important, c'était la normalité. Ma sœur se souvenait d'avant, c'est-à-dire j'ai bénéficié de ses livres, de ses jouets, on ne pouvait rien lâcher, il n'y avait plus rien. Mais je m'en suis pas aperçue parce que j'avais une bibliothèque à ma portée, j'avais ses poupées, j'ai joué avec tout ce qu'elle avait, tandis qu'elle se souvenait d'avant. Mmh. Pour moi, c'était normal.
C'était normal alors que c'était assez peu normal. Vous évoluez dans un monde à l'époque très, très particulier, donc dans la clandestinité, et le gros de votre entourage, c'est un monde voilà, de juifs qui vivent aussi dans la clandestinité ou de résistants.
Absolument. Alors, effectivement, ma réaction d'enfant, ça a été le silence. Alors on pensait que c'était parce que je parlais mal, que je prononçais mal. Moi je pense en réfléchissant qu'il y a eu toute une série de traumatismes qui font que j'y ai pensé quand je me suis entendu dire un jour avec une voix d'enfant qui m'a beaucoup surprise, c'est méchant ce qu'ils m'ont fait. J'ai trouvé que c'était très révélateur. Ils étaient tous méchants. Je me suis dit, bon, ça voulait dire qu'ils étaient tous méchants. Alors, évidemment, les nazis, les occupants, les autres, d'une façon générale, sauf ceux à qui j'avais confiance. Et je pense que c'est probablement la raison profonde pour laquelle je n'acceptais de parler qu'à ceux que je connaissais bien. Donc, je parlais tout haut à ma mère, à ma grand-mère, à ma sœur, tout bas à quelques élus, et sinon, pas du tout.
Vous l'écrivez, effectivement, cette période, elle va aussi forger quelque part un caractère, donc notamment il y a les bons et les méchants.
Oui.
Il faut se méfier de tout, chaque sortie est une prise de risque, chaque rencontre avec un milicien est une prise de risque.
Absolument, alors j'ai quelques souvenirs, je descendais au métro rue du Bac et je sens une espèce de truc visqueux dans mon cou, je devais avoir 6 ans et je me retourne et c'était un officier allemand qui m'avait embrassé dans le cou, probablement parce que j'étais une petite fille rebondie avec les joues rouges et que ça lui rappelait quelque chose. Ah, c'était l'horreur, absolument, pour moi c'était l'horreur, mais il ne fallait surtout pas que je réagisse, c'est le genre justement. Donc il fallait que je sois très normal, qui m'ait rien fait, mais en même temps c'était épouvantable.
Et dans votre biographie,
vous... quand il était hors de vue, je me suis frotté énergiquement le cou pour effacer cette trace abominable. Vous voyez, c'est le genre de souvenir de petite clandestine, effectivement, ou d'une gamine de l'école qui nous. J'étais un peu plus tard, je devais avoir 8 ans. J'étais à l'école à Paris, on revenait ensemble et elle me disait tu sais, les juifs on les reconnaît à l'odeur, ils puent épouvantablement. Et moi je lui disais, mais explique-moi exactement quelle est cette odeur pour que je puisse les reconnaître. Et à l'intérieur je jubilais, je disais je me paye sa tête, elle ne le sait pas. Donc c'est toute une espèce d'ambivalence effectivement que j'ai connue pendant assez longtemps, et avec aussi comme règle d'or, parce que j'étais petite, on me disait si on te pose une question, tu réponds je ne sais pas. Et c'est devenu un automatisme.
Voilà, on voit que
à 40 ans, je me suis aperçue une fois que quelqu'un me posait une question inattendue, que j'ai répondu instinctivement je ne sais pas. Puis après, je me suis dit attention, on n'est plus en 1942.
C'est ça, ça forge un peu un caractère qui a peut-être aussi à voir avec votre,
ça forge
votre
un
profession
caractère,
d'historien. Vous dites que vous parlez peu, vous êtes silencieuse mais observatrice, vous enregistrez beaucoup.
Oui, j'enregistre beaucoup.
Vous compreniez ce qui se passait ?
Ma mère disait, on ne lui explique rien, et elle a tout compris. Et en fait, elle expliquait un peu. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'expliciter beaucoup pour savoir tout ce qui se passait. Par exemple, mon grand-père, son père a été dénoncé parce qu'il refusait de porter l'étoile jaune. Il considérait que c'était honteux, cette étoile jaune. Donc il a été dénoncé. Deux jeunes gens français sont venus l'arrêter et l'emmener. Il a été déporté, il est mort à Auschwitz. Et je le savais, c'est-à-dire le soir où on a appris qu'il était déporté, il y avait un petit conciliabule familial dans le salon. Ma sœur qui écoutait à la porte pour savoir ce qui se passait, mais immédiatement s'est retournée vers moi, elle m'a dit « Grand-père Émile a été arrêté » et on savait ce qui se passait. Et ma mère, dans toutes ces... ma mère a été fantastique parce qu'elle était très très combative et très positive aussi. C'est ça qui m'a beaucoup aidé.
Vous racontez même une personne qui a une certaine audace. Elle va organiser un grand déménagement en plein milieu de la guerre. Elle se cache, mais elle ne se cache pas.
Oui, oui, enfin, c'était tout à fait extraordinaire. Bon, mon grand-père est arrêté, il fallait qu'on disparaisse parce que la filière pouvait être montée, elle a été remontée d'ailleurs, donc en 2 jours on a disparu. On m'a mis chez des amis en province, on a mis ma sœur ailleurs, et ma mère a trouvé un appartement où nous étions dans le 9e arrondissement, qui était un arrondissement où il y avait pas mal de juifs, effectivement. Et elle a trouvé un appartement dans le 7e arrondissement, elle a tout organisé en 48 heures. Nous étions dans un immeuble où mes grands-parents habitaient au premier étage et ma mère avait, après la mort de mon père, été montée à Paris parce qu'elle pensait qu'on se cacherait mieux à Paris qu'à Beauvais où elle était trop connue, était au 4e. Donc il y avait 2 appartements sur les 5 ou 6 qui étaient au nom de Vidrovitch. Et donc 2 grands appartements de famille, disons, bourgeoise. Donc elle a convoqué 2 gros camions baillis dans la rue et qui sont restés toute la journée pour emmener la quasi-totalité des affaires à la salle des ventes, puisque évidemment on ne pouvait pas les garder. Et c'était à la fois audacieux et astucieux, parce que finalement personne ne pouvait penser que des juifs allaient se sauver avec 2 gros camions qui restaient là toute la journée. Alors c'est une affaire de chance aussi. La Gestapo n'est pas passée dans la rue ce jour-là. Mais si on se sauvait, c'est parce que la concierge aussi a dit à ma mère, c'est la 3e fois qu'ils viennent, et cette fois-ci, j'ai rien pu raconter parce que c'était vraiment votre nom. Elle a ajouté, ne me dites pas où vous allez, comme ça, je suis sûre que je ne pourrai pas dire où vous êtes.
Alors, votre mère, là, oui, elle file, c'est ça, elle passe d'un quartier plutôt populaire, avec une population juive importante, elle va dans un quartier beaucoup plus bourgeois, conservateur, catholique. Elle continue à travailler un petit peu ce mensonge de
famille
chrétienne.
Ah oui, il n'y avait pas de. Il y avait pas, pour moi, ça ne faisait pas un pli, je continuais toujours. Alors, j'avais accepté de parler tout haut à l'institutrice. Travail de ma mère qui avait très bien compris qu'en réalité, si je ne parlais pas, si je continuais à ne pas parler, c'était uniquement par fierté. Si je parlais, je cédais. C'est une question de volonté. Et effectivement, pendant toute cette enfance, la volonté a joué un très grand rôle. Et le fait que nous avions raison, c'était ce que m'enseignait mon entourage immédiat. Nous avions raison, le gouvernement était abominable, les lois étaient abominables, par conséquent, nous étions totalement responsables de nous-mêmes, et il n'y avait que nous qui pouvions savoir ce qui était bien ou mal. C'est une éducation assez étonnante par rapport à la morale habituelle, ce qui fait que, aussi, j'ai pas pris très au sérieux l'enseignement du catéchisme qui disait ce qui était bien et qui était mal. Moi, ce qui était bien et qui était mal, c'est ce que je jugeais bien
ou pas. Vous aviez un système de valeurs.
En même temps, c'est sacrément difficile parce que instinctivement, c'est plutôt restrictif qu'autre chose parce qu'il faut faire attention de pas faire de bêtises. Non, c'est une éducation très particulière. Et ça m'est resté pendant toute ma vie. De savoir qu'est-ce que je veux faire, c'est moi qui dois savoir ce que je veux faire. Personne ne doit me dire ce que je dois faire parce que je dois le juger en connaissance de cause, si vous voulez. C'est une espèce d'éducation de la responsabilité et aussi de la volonté.
Et il y a de nombreux souvenirs dans cet ouvrage, Le choix de l'Afrique, qui s'apparente un peu à une autobiographie. Il y a beaucoup de souvenirs. Vous parlez effectivement aussi d'une vie quotidienne. Alors, encore une fois, dans un environnement particulier, quand vous allez en vacances, c'est dans l'Oise ou dans le Val-de-Marne, c'est dans une famille de résistants ou auprès d'un curé résistant. Et alors, vous racontez aussi une vie, au final, qui continue dans une ambiance particulière. Vous écoutez la radio anglaise. Sur la fin de la guerre, vous allez célébrer l'assassinat d'un ministre collaborateur, Henriot, par la résistance. Oui. Voilà, tout à la fois, c'est tragique, c'est la grande histoire, et puis c'est aussi la vie quotidienne.
Oui, avec des souvenirs particuliers, par exemple, quand, j'oublie toujours son nom, mais le ministre de l'Intérieur a été assassiné, c'était assez tard, ça, c'était en juillet 44, je crois.
C'est ça, Philippe Henriot.
Oui, c'est ça, Philippe Henriot. Et il y avait une jeune femme qui habitait chez nous, qui travaillait avec ma mère, mais qui avait été secrétaire au ministère de l'Intérieur, et qui l'avait quittée justement quand elle était arrivée, parce que quand même, elle ne voulait pas rester travailler là. Donc elle était, ma mère s'était mise à travailler, et dans le commerce, elle avait dit je sais rien faire, par conséquent je fais du commerce, mais comme elle était astucieuse, ça marchait pas mal. Elle avait donc une adjointe qui était cette jeune femme qui est revenue un jour en disant il a été assassiné. Mais ça a été une explosion de joie dans la maison. Je me souviens qu'on a dansé dans le salon. Alors ça relativise, si vous voulez, parce que après-guerre et maintenant, on entend, bon, chaque fois qu'il y avait un assassinat de ce genre-là, ben, il y avait des représailles. Il y avait 10, 20, 50, 100 résistants ou juifs qui étaient exécutés. Et par conséquent, est-ce que ça en valait la peine ? On entend ce genre de choses. Mais à l'époque, moi, je réagissais comme réagissaient les adultes, évidemment. On ne se posait pas la question. C'était très, très positif. Parce que ça voulait dire que ça commençait à aller mal pour les nazis. Donc le point de vue était assez différent. Et après, il faut rétablir pour... Donc j'ai toujours pensé que, effectivement, être témoin oculaire, même toute petite, apportait quelque chose qui était très difficile à restituer, y compris par les historiens. Je suis historienne, et quelquefois, j'entends des commentaires de très bons historiens spécialistes de la résistance, de la guerre, en me disant « ils se trompent, c'était pas comme ça, non, c'est pas comme ça que je le vois ». Donc, il y a même eu un historien qui avait tendance, il y a des historiens qui ont tendance à dire « vivement qu'il n'y ait plus de témoins, parce que comme ça, on n'est pas embarrassé par des mémoires faussées ». Ce n'est pas des mémoires faussées, c'est des mémoires particulières qui peuvent apporter effectivement quelque chose que j'ai retrouvé quand j'ai travaillé sur l'Afrique, d'ailleurs, l'importance de l'oralité. Oui.
C'est ça, déjà à l'époque, en tout cas rétrospectivement, cette enfance, vous le dites, c'est aussi une articulation entre les questions de mémoire et d'histoire.
Mais j'ai pu l'expérimenter moi-même quand mon grand-père a été arrêté, ma mère a décidé d'essayer de le sortir de Drancy. Elle est allée voir, il y avait des milieux très interlopes, très résistants en même temps. Bon, elle est allée voir une avocate qu'il fallait payer très cher, qui lui a dit il est à Drancy et qui lui a menti, qui lui a fait croire qu'il était toujours à Drancy. En réalité, il avait été emmené au commissariat de son quartier, il avait refusé de répondre en disant au commissaire français ce que vous faites est scandaleux. Et par conséquent, en représailles, il avait été envoyé à Drancy tout de suite et déporté dans les deux jours. Donc, il était mort quand ma mère essayait de le jouer. Mais ma mère est allée, place des Petits Pères, au centre au commissariat aux affaires juives, pour démontrer que mon grand-père avait épousé une demoiselle Dumont, qui n'était pas juive du tout. Et il y avait des lois nazies qui disaient que quand un juif a épousé un non-juif ou une non-juive, il n'était pas déportable. Donc, elle voulait démontrer, rue des Petits Pères, que mon grand-père devait sortir de Drancy. Et elle s'est jetée dans la gueule du loup avec plein de faux papiers. De l'autre côté, du côté Vidrovitch, mon grand-père était un russe. Un juif ukrainien, en fait, de Nikolaïevsk, qui avait immigré en 1898, enfin, qui était français depuis longtemps, et qui avait une série de faux papiers ou des connaissances qui permettaient de... Donc, ma mère s'est procurée, par ma grand-mère, qui était russe aussi, s'est procuré des attestations de religion orthodoxe pour montrer qu'elle était orthodoxe, était mariée de façon orthodoxe, donc elle n'était pas juive, etc. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Elle a failli y rester. Elle a vraiment failli y rester. Il fallait qu'elle soit... Elle nous expliquait après, il fallait que je sois absolument convaincue que j'avais raison, alors que j'avais que des faux papiers, mais j'avais raison et ils avaient tort. Et par conséquent, j'y arriverai. Je vais vous dire son énergie.
Le tempérament.
Son énergie vitale. Et à un moment, au bout de 2 ou 3 heures, alors, elle m'a. La seule chose qu'elle avait, c'est ce que je voulais vous raconter au niveau de l'histoire, la seule chose qu'elle avait, c'était le nom de la personne qui l'avait interrogée, Émile Boutny. Émile Boutny était à la direction des affaires juives et il avait pour charge de détecter justement les juifs qui se disaient non-juifs. Il était à la tête du service, nommé par Darquier de Pelletois. Alors ça, je l'ai trouvé chez les historiens qui ont travaillé. La seule chose que j'avais, c'est ma mère se souvenait, c'est un monsieur qui s'appelait Boutmy. Alors j'ai recherché, et puis j'ai trouvé qu'effectivement, Boutmy, c'est un personnage important, épouvantable, que par ailleurs, il était le petit-neveu, il n'y pouvait rien, le petit-neveu de son homonyme Émile Boutny, qui était le fondateur au XIXe siècle de la Fondation des sciences politiques. Enfin, ils ne se connaissaient pas parce que le jeune Émile Boutigny était né quand le grand-oncle était déjà mort. Il était avocat à Tunis et il a été appelé par Darquier de Pellepoix pour prendre le poste en 1942-1943. Et donc, c'est lui qui a interrogé ma mère, effectivement. Et elle racontait qu'il avait fait venir un grand-duc. Et j'ai retrouvé aussi le grand-duc. Le grand-duc, j'ai oublié son nom, ça n'a pas d'importance, c'était un ancien russe blanc qui était gagné aux idées nazies, qui est venu l'interroger sur qu'est-ce que c'était que le mariage orthodoxe, puisque alors elle a inventé des choses. Bref, elle en est sortie. On lui a dit plus tard qu'elle était la seule qui en était sortie. Ce qui prouve à quel point elle avait résolu. Et là-dessus, elle a été mieux renseignée sur les informations de Drancy. Elle a été envoyée à une pharmacie dont la pharmacienne était une résistante qui savait les choses. Elle est allée à la pharmacie pour demander des nouvelles de son père. La pharmacienne racontait qu'elle lui avait fait mettre la lettre dans une boîte sur le comptoir et qu'en même temps elle était en train de vendre des éponges à des officiers SS, mais qu'elle ne se frappait pas plus que ça. Et elle est revenue la semaine suivante et la réponse était « Votre père a été déporté il y a déjà 3 semaines, donc tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. » Donc c'était ce genre de choses que je... Alors, mon livre de souvenirs, c'est un mélange de mes propres souvenirs et de tout ce qu'on m'a raconté aussi. C'est très difficile de faire toutes ces histoires que je raconte. Évidemment, je ne les ai pas vécues comme ça sur le moment. Mais on me les a racontées dans la famille, on en parlait. Et puis, ma mère, comme je disais, est morte très âgée. Ses petits-enfants l'ont fait parler aussi. Donc, tout ça, ce sont des souvenirs... qui sont importants.
Et toutes ces histoires que vous nous racontez, cette enfance de guerre, si on peut dire, elle est déterminante dans votre choix de devenir historienne. Elle développe, vous le dites chez vous, le goût de la quête, de l'aventure, de la volonté de comprendre une biographie.
La volonté de comprendre, absolument. Voilà, la volonté de comprendre, c'est ça. Le
particulier.
Le vouloir connaître, la curiosité, beaucoup de curiosité. Il paraît que mon père me surnommait l'enfant d'éléphant parce qu'il y a un conte de Kipling avec un enfant d'éléphant d'une insatiable curiosité. Tous les petits enfants posent beaucoup de questions, n'importe comment. Mais je pense que cette curiosité s'est transformée en curiosité scientifique et ne m'a jamais quittée. J'aime apprendre, disons. Et à mon âge avancé, c'est ça qui me plaît aussi.
Merci beaucoup pour tous ces souvenirs. Demain, nous poursuivrons cette discussion. Nous continuerons de remonter le fil de votre vie et de suivre vos pas, en l'occurrence, vos premiers pas sur le continent africain. Merci Catherine Kokrivitorovitch et à demain.
Merci à vous et à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jules Crétois avec Catherine Kokrivitorovitch. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Yves Lehorse, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.